Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une actrice qui a eu un succès phénoménal alors que, si l'on regarde bien, elle n'a pas tourné énormément de films, mais chacun de ses rôles a marqué le public. Cette actrice, c'est Audrey Hepburn. Audrey Hepburn est née en 1929 dans la banlieue de Bruxelles, à Ixelles exactement. Sa mère était d'authentique origine aristocratique hollandaise. Son père, c'est beaucoup plus aléatoire. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie. Et Audrey Hepburn a tourné, donc, je vous disais tout à l'heure, 28 films. Elle a eu un Oscar, mais elle a été aussi nommée pour 4 autres films, ce qui n'est pas mal. Elle a eu également ce qu'on appelle les Tony Award pour un rôle théâtral. Et ce qui est étonnant, c'est que en 1955, elle était désignée l'actrice la plus aimée au monde. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Assez extraordinaire parce que en 1999, elle a été classée troisième parmi les actrices américaines les plus populaires, derrière Katharine Hepburn, le même nom, mais les deux actrices n'ont aucun lien de parenté. Et elle a eu un succès phénoménal avec une allure qui a de quoi surprendre. L'époque où elle a beaucoup tourné pour le cinéma correspondait à la période la plus glorieuse d'actrices comme, disons, Gina Lollobrigida, Martine Carole, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, des actrices aux formes généreuses, va-t-on dire. Et Audrey Hepburn, elle a une particularité, elle est quand même, elle a une silhouette très androgyne. Elle est mince, elle n'a pas une poitrine extraordinairement développée, et pourtant, elle a été très populaire. Revenons un peu sur sa vie, si vous voulez. Peu de temps après sa naissance, ses parents déménagent en Angleterre. Le père, au bout d'un moment, va abandonner le foyer. Elle le reverra 30 ans plus tard. Et au moment où Audrey, qui n'est pas encore Audrey Hepburn, commence des études intensives pour la danse, elle voulait être danseuse. À ce moment-là, éclatent les hostilités et sa mère décide de rentrer en Hollande, et plus exactement à Bruxelles. Erreur fatale. Peu de temps après, les Allemands envahissent la Hollande. La mère et la fille qui vivaient alors à Amsterdam se trouvent prises au piège et ne peuvent pas retourner en Angleterre, qui est un pays ennemi. La reine Juliana, elle, était partie en exil. Et Audrey Hepburn va vivre des moments très difficile. Parce que c'est très difficile de trouver de s'approvisionner, parce qu'il y a des rafles, parce que des juifs disparaissent. Et elle racontera que, une fois, alors qu'elle rentrait chez elle, enfin, elle allait rejoindre sa mère, elle a failli être prise dans une rafle. Elle s'est réfugiée dans une cave. Elle va rester dans cette cave plusieurs semaines sans rien à boire, sans rien à manger, sans rien à boire, en buvant l'eau qu'elle arrivait à récupérer, elle s'en sortira un peu par miracle. Mais cette expérience la marquera durablement, au point que, plus tard, lorsqu'elle sera une vedette reconnue à Hollywood, on lui proposera de tourner dans un film réalisé à partir du journal d'Anne Frank. Et Audrey Hepburn refuse d'incarner Anne Frank. Elle expliquera elle-même que c'était au-dessus de ses forces, parce que ça évoquait trop de souvenirs personnels, trop de souffrances personnelles, une époque particulièrement difficile. Finalement, le film se fera avec une actrice qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle et n'aura pas un succès, disons, public phénoménal. Par contre, plus tard, Audrey Hepburn acceptera d'enregistrer le journal Anne Frank. Mais enregistrer, lire un texte, pour elle, c'était peut-être moins difficile que incarner sous l'œil de la caméra, incarner cette héroïne Anne Frank. Fin de la guerre, Audrey et sa mère retournent en Angleterre. Et Audrey commence à poser pour des photos de mode, pour des revues. Et c'est là que va se produire l'événement qui va décider de la suite de sa vie. En 1954, elle part à Monte-Carlo tourner un film de Boyer, Nous irons à Monte-Carlo. Le film est difficilement regardable aujourd'hui, mais à l'hôtel, il se trouve qu'il y a une romancière française très célèbre, Colette. À l'époque, Colette a 78 ans. Et elle voit cette jeune anglaise, elle dit, il faut que cette actrice joue Gigi. Gigi, un des romans les plus connue de Colette, et qu'elle joue au théâtre, et qui plus est, à New York. Colette en parle à Audrey Hepburn. Audrey Hepburn lui dit, mais je ne serais pas capable de jouer ça, c'est trop lourd pour moi, c'est trop écrasant, etc. Colette s'entête, et effectivement, Audrey Hepburn monte sur scène à New York, et joue Gigi pendant plus de presque 150 représentations avec un succès énorme. C'est étonnant que cette comédienne anglaise, américaine, ait connu son premier succès grâce à l'œuvre d'une romancière française. Mais Colette, il faut bien le reconnaître, se trompait rarement dans ses choix. Il ne faut pas oublier qu'elle-même avait été comédienne. Et alors, à partir de là, tout va s'enchaîner de façon assez imprévisible. Et voici ce que Audrey Hepburn écrivait elle-même. « Je suis sortie de la guerre, reconnaissante d'être en vie, et consciente que les relations humaines sont la chose la plus importante. Bien plus que la richesse, la nourriture, le luxe, la carrière ou toute autre chose que vous pourriez citer. Et effectivement, on va retrouver tout au long de la carrière d'Audrey Hepburn ce besoin d'avoir des relations avec les autres, d'aller vers les autres, mais peut-être ne faut-il pas trop anticiper, mais toutefois, en évoquant déjà la fin de sa vie qui va être consacrée essentiellement à l'UNICEF et aux missions humanitaires dans le monde entier. « Voilà donc Audrey Hepburn lancée à New York, après avoir tenté un peu de comédie musicale. Elle a quand même déjà une chose bien personnelle et qu'on retrouvera dans toute sa vie. Elle a un don extraordinaire pour s'habiller, pour trouver la tenue vestimentaire qui convient le mieux à sa personnalité. Alors, maintenant, nous arrivons au premier succès d'Audrey Hepburn. Premier succès de cinéma, c'est-à-dire un film de 1954, Vacances romaines. Vacances romaines, pour lequel on obtiendra d'ailleurs un Oscar. Vacances romaines, comme le titre l'indique, ça se passe à Rome, c'est l'histoire d'une princesse, on ne sait de trop de quel pays, qui arrive à Rome, qui veut visiter la ville sans être suivie par les journalistes, et qui évidemment tombe amoureuse d'un jeune homme, Gregory Peck. Elle ne sait pas qu'il est journaliste, et tous les deux visitent la ville, et ce film a eu un succès énorme. Et déjà, Audrey Hepburn a trouvé la tenue qui convenait le mieux à sa personnalité. Une jupe évasée, des soquettes blanches, une large ceinture à la taille, le personnage est né. Ensuite, elle va enchaîner les films. Notamment, elle va tourner un film aux côtés de Humphrey Bogart. Ça se passe très mal, entre les deux. Humphrey Bogart, il y a à leur côté William Holden. Ça se passe très mal, Bogart ne la supporte pas. Mais elle découvre un ami qu'elle va garder jusqu'à la fin, c'est Hubert de Givenchy, le couturier parisien. Et elle va imposer au monde, et au cinéma aussi, les œuvres, les robes, les costumes de Givenchy. Alors, entre-temps, elle va au cinéma, et puis elle voit un film, Lily, avec une actrice qui s'appelle Leslie Caron, et un comédien dont elle tombe éperdument amoureuse, c'est Mel Ferrer. Mel Ferrer, ça va être peut-être le grand amour de sa vie. Il ne tarde pas à se marier, puisque en 1954, ils unissent leur destin. Ils unissent aussi leur talent. Parce que Audrey Hepburn remonte sur les planches au théâtre. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle va avoir un prix pour son interprétation dans une pièce de Giraudoux, Ondine. On prend Gigi, on prend Ondine, décidément. Audrey Hepburn est très marqué par la littérature française. Alors, le mariage avec Mel Ferrer, eh bien, ça marche très bien, quelque temps. Il tourne notamment un film d'après le roman de Léon Tolstoï, Guerre et paix. Elle joue Natacha Rostova. Lui joue le prince André, et on a beaucoup dit qu'elle n'était pas Natacha. Je ne suis pas d'accord. Elle a campé une Natacha russe avec un talent, une présence, un sourire que finalement seule elle, à ce moment-là, pouvait donner au personnage. Il suffit de regarder les autres adaptations qui ont été faites de Guerre et paix de Tolstoï pour se rendre compte à quel point la version américaine de King Vidor domine la production de Sans couder. Alors, ils essaient, comme tout couple, d'avoir des enfants. Oh, malheureusement, Audrey Hepburn fait plusieurs fausses couches. Et puis, ils ont quand même un fils qu'ils appellent Sean. Et elle continue sa carrière. Elle va tourner une comédie, Drôle de frimousse, Stanley Donen. Elle va tourner également Ariane, de Bill Wilder, aux côtés de Gary Cooper, Maurice Chevalier. Une sorte de plaisanterie policière. Et surtout, elle va tourner un de ses plus beaux rôles. Elle va tourner Au risque de se perdre, Nun's Story, aux côtés de Peter Finch. Le rôle est superbe. De quoi s'agit-il ? C'est d'après un roman de Catherine Hulm, une religieuse part au Congo comme infirmière. Elle est l'assistante d'un chirurgien. Et puis elle tombe malade et on la rapatrie en Belgique. Et sa supérieure lui dit qu'elle ne retournera pas au Congo, alors elle quitte le voile pour devenir résistante. Oh, bien sûr, il y a un petit côté mélodramatique dans l'histoire, mais Audrey Hepburn arrive à merveille à rendre les multiples aspects de ce personnage qui sort de l'ordinaire. Et alors, elle continue avec un autre film, notamment un western, que personnellement j'aime beaucoup, qui s'appelle Le vent de la plaine, de John Huston, et elle joue aux côtés de Burt Lancaster. Burt Lancaster est une comédienne venue du cinéma muet, Lynn Anguish, une excellente comédienne. Alors, de quoi s'agit-il ? Elle incarne le rôle de Rachel, qui découvre, lorsqu'elle est déjà jeune fille, qu'elle est en fait une Indienne qui a été adoptée par des Blancs et que sa tribu d'origine veut récupérer. Elle joue aussi dans des comédies plus légères, Diamant sur canapé, Charade, aux côtés de Cary Grant. Alors Charade, c'est un film assez étrange et très intéressant parce qu'en fait, c'est un peu, sous forme de comédie, un hommage à Alfred Hitchcock. C'est Regina, l'héroïne, qui retrouve chez elle son mari assassiné. Elle rentre de voyage pour trouver le corps de son époux légitime. Avouez qu'il y a de quoi traumatiser n'importe quelle femme normalement constituée. Elle va se lancer à la recherche de l'assassin, aux côtés de Cary Grant, ce qui est le point de départ de beaucoup de films d'Hitchcock. Elle va aussi, peu de temps après, tourner dans Deux têtes folles, aux côtés de William Holden, une comédie bien faite, qui se laisse voir, distrayante. Et c'est en 1966 qu'elle va tourner ce qui restera peut-être son plus grand succès de cinéma, My Fair Lady. Nous avons laissé Romy Schneider en 1966, au moment où elle tourne, je disais, sans doute le film qui a le plus marqué le public, My Fair Lady. Alors My Fair Lady, au départ, c'est une comédie de George Bernard Shaw. C'est l'histoire d'une jeune fleuriste, Eliza Doolittle, et un professeur, un peu fou comme beaucoup de professeurs, le professeur Higgins, fait le pari avec ses collègues qu'il va transformer cette sauvage jaune au langage, disons, un peu spécial, il va la transformer en lady. Et c'est devenu une comédie musicale. Et on peut dire que Audrey Hepburn a vraiment trouvé là le moyen de laisser pleinement s'épanouir toutes ses possibilités. Peut-être que ce qu'on retiendra d'abord, c'est ses tenues extraordinaires, notamment avec son chapeau d'une hauteur, disons, parfois surprenante, mais surtout cet enthousiasme, cette fraîcheur, ce naturel, cette vérité finalement qu'elle arrive à donner à son personnage d'Eliza Doolittle. Alors après vont suivre Comment voler un million de dollars à côté de Peter O'Toole, Voyage à deux aux côtés d'Albert Finney. Un film qui a été rediffusé récemment à la télévision et qui s'avère durable. Je veux dire que quand on voit un film au moment de sa sortie, on peut l'aimer et puis des années plus tard, en le revoyant, se dire « Ah, je l'ai aimé quand il est sorti, maintenant il a mal vieilli, je n'aime plus... » Bon, Seul dans la nuit... Ce qui est extraordinaire, c'est le rôle d'une aveugle. Elle habite seule chez elle et elle ignore que des trafiquants ont caché dans son appartement une poupée bourrée d'héroïne. Et c'est le combat de cette femme, toute seule, pour résister aux attaques des trafiquants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Audrey Hepburn, bien sûr, a les yeux fermés, puisqu'elle est aveugle, et elle arrive, je ne sais pas comment, elle arrive à presque avoir un regard qui interpelle le public. Et puis, nous arrivons presque le dernier film qu'elle a tourné. Entre 1967 et 1976, donc elle a laissé passer quand même beaucoup de temps avant de tourner un autre film. Un film qui s'appelle La Rose et la Flèche, aux côtés de Sean Connery. Sean, tiens, le même prénom que son fils. Et La Rose et la Flèche, c'est une comédie tendre et nostalgique. C'est l'histoire de Robin des Bois. 20 ans après, lorsqu'il revient de croisade au bout de 20 ans, il a vieilli et il retrouve Marianne, sa fiancée, Audrey Hepburn, qui est devenue religieuse. Et symboliquement, Robin des Bois, Sean Connery meurt et Marianne le rejoint dans la mort. Alors, ça va être à peu près la fin de la carrière. Si, on peut citer quand même une dernière apparition dans un film de Spielberg qui s'appelle Always. Et symboliquement, elle y incarne un ange venu de l'au-delà pour aider les humains. Avouez que pour une actrice... Terminer sa carrière sur le rôle d'un ange, Cela ne peut pas s'inventer. Le scénariste qui l'inventerait, on le traiterait de fou. Eh bien, c'était tout simplement la vérité. Entre-temps, ben, elle a rompu avec Mel Ferrer et se remariée avec un chirurgien romain. Ça n'a pas duré non plus. Elle a eu quand même un autre enfant. Et Audrey Hepburn, pardon, va se consacrer pour tout le restant de sa vie à une action humanitaire auprès de l'UNICEF. Elle va se déplacer dans le monde entier. Elle va essayer d'intervenir. Elle va organiser des réunions, des rencontres. Voici ce qu'elle dit à propos justement de l'UNICEF, de son action. J'ai vu non seulement le travail des Nations Unies, mais aussi des nations qui se sont unies pour surmonter la crise. L'UNICEF essaie d'atteindre les plus blessés. Elle travaille d'une façon merveilleuse pour aider les gens à retrouver une dignité. Si on leur donne une bêche, ils peuvent creuser un puits. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils ne doivent pas creuser des tombes pour les enfants. N'oublions jamais ces enfants qui ne connaissent pas la paix, qui ne connaissent pas la joie, qui ne sourient jamais. C'est pour ces enfants que je parle, pour ceux qui ne peuvent pas plaider pour eux-mêmes. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. J'ai vu le miracle de l'eau que l'UNICEF a aidé à devenir réalité pour un village d'Amérique centrale où depuis des siècles les jeunes filles et les femmes devaient parcourir des kilomètres pour s'en procurer. Maintenant elles ont de l'eau potable et propre près de leur maison. L'eau est vraiment la vie, elle signifie maintenant la santé pour les enfants du village. Nous ne pouvons pas envisager un monde de paix et de compassion tant que les enfants souffrent de maladies ou qui sont mutilés ou négligés. Les enfants ne peuvent pas attendre que la vie et crise économique passe, il faut que nous les aidions maintenant. Les enfants de l'Éthiopie, du Soudan, ne connaissent pas Audrey Hepburn, mais ils reconnaissent le nom UNICEF. Quand ils voient UNICEF, leur visage s'illumine, car ils savent que quelque chose va se produire. Au Soudan, par exemple, ils appellent une pompe à eau UNICEF. Et enfin, pour parler plus précisément d'elle, si les gens s'intéressent toujours à moi, si mon nom les oblige à écouter ce que je veux dire, alors c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, faire la promotion d'Audrey Hepburn ne m'intéresse plus. Mon seul intérêt est d'expliquer au monde comment on peut apporter de l'aide à l'Éthiopie, et c'est ce qui est ma raison de vivre. Et pour fermer la boucle, un jour elle a déclaré à propos d'elle-même: je me trouvais en Hollande pendant la guerre, sous l'occupation allemande, et la nourriture a commencé à manquer. Le dernier hiver fut le pire de tous. À cette époque, le peu qu'il y avait allait aux troupes. Il y a une grande différence, bien entendu, entre mourir de faim et souffrir de malnutrition, mais j'étais très mal nourri. Dès la fin de la guerre, une organisation qui est devenue plus tard l'UNICEF est arrivée tout de suite avec la Croix-Rouge. Ce fut un énorme soulagement pour tout le monde, car ils apportaient de la nourriture, des médicaments, des vêtements. Toutes les écoles de la région sont devenues des centres de secours. Je n'ai été l'une des bénéficiaires. Avec les autres enfants, j'ai connu l'UNICEF toute ma vie. Alors, si vous le voulez bien, nous allons quitter Audrey Hepburn, qui a passé les derniers moments de sa vie à Tolojonas, en Suisse, où elle est enterrée, où elle repose depuis 1993. Je vous remercie de m'avoir écouté.